Deux grandes lumières. L'origine de la vraie lumière. Ouvrez, s'il vous plaît, à 1 Jean 1. La Bible est très claire quant à l'origine de la vraie lumière. La lumière n'a qu'une seule source, et c'est Dieu qui est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans ce monde où nous vivons, il nous est difficile de concevoir ce qu'est la lumière sans penser au soleil et à la lune. Pourtant, il y avait de la lumière avant et il y en aura après la disparition de ces deux grands luminaires créés par Dieu. Dieu, en tant que lumière pure, est le Père des lumières. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le psaume 148 développe cette idée. En tant que création du Père des lumières, le soleil, la lune et les étoiles ont été créés pour louer Dieu, le Créateur. Psaume 148, verset 3. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Les corps célestes créés par Dieu ne doivent en aucun cas être vénérés comme la source de la vraie lumière. Comme le souligne le Deutéronome 4, ils font partie de la création et non du Créateur lui-même. Deutéronome 4, 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Romains 1 rappelle la vérité que le peuple de Dieu ne doit pas se détourner de la vraie lumière en adorant la création plutôt que le Créateur. Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature ou bien la création, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Lorsque Dieu a créé la lumière pour la première fois, il en a parlé au singulier. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière au singulier soit. Plus loin dans le récit de la création, cependant, il en parle au pluriel. Genèse 1, 14. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières au pluriel. Il est donc passé de « que la lumière soit » à « qu'il y ait des lumières ». Pourquoi fallait-il des lumières alors que la création disposait déjà de la lumière? C'est une bonne question qui mérite une réponse réfléchie. Nous commencerons l'étude d'aujourd'hui par le premier chapitre de la Bible. Vous voudrez peut-être y laisser votre marque-page, car nous y reviendrons souvent. Une anecdote biblique intéressante. Saviez-vous que le soleil et la lune ne sont jamais mentionnés dans le récit de la création? Ce que dit réellement la Bible dans Genèse 1, c'est que Dieu créa deux grandes lumières. Une lumière plus grande et une lumière plus petite. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques ou temps fixes, les jours et les années, et qu'ils servent de lumière, dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, deux grandes lumières. la plus grande lumière pour présider au jour et la plus petite lumière pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Sachant à quoi ces versets font référence dans les cieux, nous avons tendance à remplacer dans notre esprit les termes « plus grande lumière » et « plus petite lumière » utilisés dans le texte par le soleil et la lune. Cependant, je voudrais vous suggérer que Dieu souhaite que nous comprenions une vérité plus profonde et plus significative à partir de ce passage. La nature de la véritable lumière qu'il diffuse ainsi que son Fils. Nous savons que Dieu n'agit jamais au hasard. Ce qu'il accomplit dans le monde visible et naturel est conçu pour nous enseigner qui est notre Créateur invisible, qui est Esprit. Quel meilleur moyen d'enseigner à l'homme qui est le Père des Lumières et qui est son Fils, la Lumière du monde, que de le peindre sur la toile de la voûte céleste. Pour ceux qui ont les yeux pour le voir, ce passage de la Genèse révèle que Dieu lui-même est la plus grande lumière et son Fils, Jésus-Christ, la plus petite lumière. Vous voyez, Dieu n'a pas utilisé le mot « soleil » et « lune » dans ce passage, car il ne s'agissait pas en fin de compte d'eux. Ce ne sont que des moyens temporaires qui sont un jour supplantés par les deux véritables grandes lumières, le Père et son Fils, comme nous le verrons plus en détail au fil de cette présentation. La vérité éternelle que ce passage biblique vise à mettre en évidence est que Dieu est la grande lumière, au-dessus de tout, et que son Fils est la grande lumière du monde, soumise à Dieu, son Père et le Père des Lumières. Au fur et à mesure que nous développerons ce thème, nous comparerons et mettrons en contraste deux ensembles distincts de grandes lumières. Les lumières astronomiques, c'est-à-dire le soleil et la lune, et les lumières célestes, Dieu et le Christ. Comme cette présentation porte sur les deux grandes lumières, nous n'aborderons pas les étoiles dans notre réflexion. Prenons un instant pour réfléchir à ce que j'aime appeler l'histoire de la lumière. Comment Dieu a conçu le soleil et la lune pour nous enseigner comment la lumière de Dieu rayonne à la fois de Dieu lui-même et de son Fils. Nous prendrons le temps d'examiner cinq aspects clés de l'histoire de la lumière, l'origine, le domaine, les rythmes, la ressemblance et la durée. Le premier aspect de l'histoire de la lumière que nous allons examiner est l'origine. Le soleil et la lune ont tous deux des leçons à nous enseigner sur la lumière émanant du Père et du Fils. Et voici une leçon tirée des lumières astronomiques. Seul le soleil émet sa propre lumière. Ce que nous percevons comme le clair de lune n'est rien d'autre que la lumière du soleil réfléchie. Le son parallèle avec les lumières célestes, c'est que la plus grande lumière, Dieu le Père des Lumières, est la source de lumière. La plus petite lumière, le Christ le Fils, est son reflet. Prenez le temps de vous remémorer la dernière fois où vous étiez à l'extérieur, émerveillé par le disque lunaire lors d'une nuit claire et éclairée par la lune. Vous avez peut-être même remarqué votre propre ombre au clair de lune. La vue de cet astre lumineux n'était-elle pas époustouflante? C'est ainsi que la lumière du Christ resplendit dans ce monde obscur. Le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux illustre la beauté de la relation céleste entre le Père et le Fils. Écoutez cette interprétation du verset dans la traduction anglaise Passion Translation. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le rayonnement éblouissant de la splendeur de Dieu, l'expression exacte de la véritable nature de Dieu, son reflet. Le Christ, en tant que Fils, est peut-être la lumière plus petite, mais cela ne fait en aucun cas de lui un être inférieur. Il est l'image fidèle de son Père. Pensez-y la prochaine fois que vous admirerez la lumière réfléchie par la pleine lune dans toute sa splendeur. Le deuxième aspect de l'histoire de la lumière que nous allons examiner est le domaine. Le passage de la création qui illustre ce concept est le suivant. Genèse 1, verset 16. Dieu fit les deux grandes lumières, la plus grande lumière pour présider au jour et la plus petite lumière pour résider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Il ressort clairement du contexte du verset 16 que, dans le récit de la création, la plus grande lumière désigne le soleil et la plus petite lumière, la lune. Chacune avait son propre domaine. La leçon sur les lumières astronomiques est que le soleil règne sur le jour. La lune règne sur la nuit. Lorsque le soleil est levé, l'éclat de la lune pâlit en comparaison. C'est dans l'obscurité de la nuit que la lune brille de mille feux. La leçon parallèle avec les lumières célestes. La plus grande lumière, Dieu le Père, règne sur le jour. La plus petite lumière, le Christ le Fils, règne sur la nuit. Le Père règne sur le jour où il n'y a pas de nuit. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Ouvrez votre Bible à Jean 11. Le Fils, en tant que lumière de ce monde obscur, règne sur la nuit. Jésus lui-même a exprimé son autorité à cet égard en Jean 11, verset 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, c'est-à-dire en Dieu, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, c'est-à-dire le Christ. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière de Dieu et de Christ n'est pas en lui. » Marcher dans la lumière de ce monde, qui est le Christ, c'est disposer de la lumière nécessaire pour voir et ne pas trébucher dans la nuit qui nous entoure. La lumière du Christ l'emporte sur les ténèbres de ce monde. Le troisième aspect de l'histoire de la lumière que nous allons examiner est celui des rythmes. Revenons à notre passage phare et relisons-le. Genèse 1. Genèse 1, verset 14. Dieu dit, « Qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques ou les temps fixes, les jours et les années. » Dieu a placé des lumières dans les cieux afin d'établir les rythmes qui régiraient la vie de l'homme sur terre. Certains rythmes étaient solaires, dictés par le soleil, d'autres étaient lunaires, dictés par la lune. Par la lumière, Dieu a conçu les rythmes destinés à l'homme. Les jours rythment le présent de l'homme. Les années rythment la vie terrestre de l'homme. Les époques rythment la vie éternelle de l'homme. Explorons les rythmes établis par les jours, les années et les époques afin d'en puiser les trésors. Les rythmes astronomiques pour les jours. D'un point de vue astronomique, les jours dépendent de la plus grande lumière, le soleil. Un jour correspond au temps nécessaire à la Terre pour effectuer une rotation complète sur son axe. À tout moment, c'est le jour du côté de la Terre tourné vers le soleil, c'est la nuit du côté opposé au soleil. Tel est le cycle du jour et de la nuit établi par Dieu. D'un point de vue céleste, les jours dépendent de la lumière plus grande, Dieu. Les jours rythment le présent de l'homme. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu a établi le cycle de la nuit et du jour en tenant compte des besoins de l'homme, ici et maintenant. Dans ce qui allait devenir plus tard un monde las et entaché par le péché, l'homme aurait besoin du répit de la nuit avant d'affronter les défis d'une nouvelle journée. Comme le temps était une idée de Dieu et non de l'homme, il n'était pas vain, mais avait un sens. Le cycle du jour et de la nuit offrait à l'homme l'occasion répétée de choisir Dieu au quotidien. Les jours de l'homme seraient suffisamment longs pour qu'il puisse s'engager et persévérer sur le chemin de la rédemption éternelle. Le plan de Dieu pour l'homme dans son cheminement vers le salut est qu'il mette à profit chaque jour. Comme il est dit dans Éphésiens 5, 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Parlons maintenant des années. D'un point de vue astronomique, les années dépendent de la plus grande source de lumière, le soleil. Vous avez peut-être déjà entendu cette formule classique lors d'un anniversaire. Un tour de plus autour du soleil. Une année correspond au temps que met la Terre pour effectuer une révolution complète autour du soleil. L'orbite de la Terre dépend de la gravité. En tant que corps le plus massif du système solaire, le Soleil est l'astre autour duquel tous les autres gravitent. D'un point de vue céleste, les années dépendent de la lumière plus grande, Dieu. Toutes choses commencent et finissent avec Dieu. Les années rythment la vie terrestre de l'homme. Il est intéressant de noter que la deuxième occurrence du mot « année » raconte l'histoire de la vie du premier homme, le premier Adam. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Le psalmiste nous rappelle que les jours de la vie d'un homme sont dans la main de Dieu. Psaume 31. Psaume 31, verset 15. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Maintenant, considérons les époques. D'un point de vue astronomique, les époques ou temps fixes dépendent de la lumière plus petite, la Lune. Un mois correspond au temps que met la Lune pour effectuer à la fois sa rotation sur son axe et son orbite autour de la Terre. Comme la rotation de la Lune et son orbite coïncident parfaitement, cela a pour effet vu depuis la Terre, que la même face de la Lune est toujours tournée vers la Terre. À l'instar d'autres peuples de l'Antiquité, les Hébreux suivaient un calendrier lunaire, calculé en fonction des cycles de la Lune. Les temps fixes ou les époques suivait donc un cycle mensuel. La nouvelle lune marquait clairement le début d'un nouveau mois. D'un point de vue céleste, les époques dépendent de la lumière plus petite, le Christ. Les époques ou temps fixes définissent les rythmes de la vie éternelle de l'homme. Les fêtes saisonnières telles que la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles se déroulaient toutes selon un cycle mensuel. Le calendrier annuel des événements hébreux racontait l'histoire de la rédemption de l'homme par un rédempteur à venir. Le Messie, qui allait finalement accomplir le salut de l'homme, était le luminaire dont le calendrier dépeignait la vie et le ministère. Chaque fête constituait une étape importante sur le chemin de la vie éternelle et chacune était définie par la lumière plus petite qui incarnait cette vérité. À quoi correspondent ces fêtes sur le chemin de la rédemption? La Pâque et la fête des pains sans levain annoncent la crucifixion et la résurrection du Christ. La fête des prémices et la fête des semaines annoncent le don du Saint-Esprit par le Christ monté au ciel à la Pentecôte. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles annoncent le retour du Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs à la fin du monde. Ces sept temps fixes servaient de repère à Dieu sur la voie de la rédemption, en prévision de l'œuvre future du Christ qui deviendrait à leur tour les jalons sur le chemin de l'homme vers la vie éternelle. Le quatrième aspect de l'histoire de la lumière que nous allons examiner est la ressemblance. Et il y a une leçon sur les lumières astronomiques, puisque depuis des siècles, les hommes sont fascinés par la similitude apparente entre la taille du Soleil et celle de la Lune lorsqu'on les observe depuis la Terre. La différence entre les deux n'est que d'un demi-degré. L'un des spectacles célestes les plus impressionnants est l'éclipse solaire. Celle-ci ne pouvait pas se produire sans la différence de taille relative entre le Soleil et la Lune que nous venons d'évoquer. Et c'est cette même différence qui rend possible les éclipses lunaires. Il ne fait aucun doute que les éclipses solaires et lunaires sont des repères temporels dans les défilés de l'histoire. Et ce qui rend tout cela si grandiose, c'est que l'homme est absolument impuissant à y toucher. Il y a une leçon parallèle avec les lumières célestes. En tant qu'acte spirituel de l'univers, l'Éternel Dieu est comparé au soleil. En psaume 84, 12, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui partage sa gloire, est également comparée au soleil levant. Malachie 4, 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ce même Seigneur Jésus-Christ est également appelé le soleil levant dans l'Évangile selon Luc. Luc 1, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La fidélité est la caractéristique qui distingue à la fois le soleil et la lune. Psaume 136, verset 7. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours, le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Et enfin, en psaume 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps fixes. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tout comme nous comptons sur le lever et le coucher du soleil, nous pouvons toujours compter sur l'amour indéfectible de notre Dieu et de son Fils. En Lamentations, chapitre 3, il est déclaré au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Le cinquième et dernier aspect de l'histoire de la lumière que nous allons examiner est la durée. Et il y a une leçon sur les lumières astronomiques, c'est que dans le deuxième ciel et la deuxième terre, le soleil est le luminaire du jour, la lune est le luminaire de la nuit. Et la leçon parallèle avec les lumières célestes, c'est que les deux grandes lumières, le soleil et la lune, sont éphémères. Elles ont vu le jour avec le deuxième ciel et la deuxième terre et disparaîtront au troisième. Les deux grandes lumières, Dieu et le Christ, sont éternelles et rayonnent à travers les âges. Ésaïe révèle que les luminaires astronomiques que sont le soleil et la lune ne dureront pas éternellement, mais qu'elles seront remplacées par l'Éternel lui-même dans les temps à venir. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière toujours et les jours de ton deuil seront passés. Le livre de l'Apocalypse explique plus en détail comment Dieu fera briller la lumière dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En Apocalypse 21, premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et au verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu, la lumière plus grande, l'éclaire. Et l'agneau, la lumière plus petite, est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Nous avons examiné divers aspects de l'histoire de la lumière. Nous savons que le monde dans lequel nous vivons a été transformé dès l'instant où Dieu a fait apparaître la lumière pour la première fois. Dieu, le Père des Lumières, a engendré Christ, la lumière de ce monde. Dieu, en qui il n'y a point de ténèbres, règne sur le jour, et le Christ, la lumière de la vie, règne sur la nuit, ce monde obscur dans lequel nous vivons. Par la lumière, Dieu a conçu les cycles quotidiens, annuels et mensuels, qui rythment notre présent, notre vie terrestre et notre vie éternelle. Mes destinées sont dans ta main. À l'instar du soleil et de la lune qui ne cessent jamais de briller, le Père et le Fils ne cessent jamais d'illuminer nos vies en toute époque et à tout moment. Contrairement aux luminaires éphémères que sont le soleil et la lune, Dieu et le Christ sont les deux grandes lumières éternelles pour toute l'éternité. Aujourd'hui, nous sommes les porteurs de la lumière de Dieu. Dans quel but nous a-t-il appelés? Selon les paroles de Jésus-Christ, en Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Portant en nous la lampe de l'Esprit, répandons la lumière du Christ dans ce monde obscur, afin que tous les hommes puissent voir et venir à la connaissance du seul vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse.